Lettre 100. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Mon ami, je suis joué, trahi, perdu. Je suis au désespoir. Madame de Tourvel est partie. Elle est partie et je ne l'ai pas su. Et je n'étais pas là pour m'opposer à son départ, pour lui reprocher son indigne trahison. Ah, ne croyez pas que je l'eusse laissé partir. Elle serait restée. Oui, elle serait restée. Eussé-je dû employer la violence ? Mais quoi ? Dans ma crédule sécurité, je dormais tranquillement. Je dormais, et la foudre est tombée sur moi. Non, je ne conçois rien à ce départ. Il faut renoncer à connaître les femmes. Quand je me rappelle la journée d'hier, que dis-je, la soirée même, ce regard si doux, cette voix si tendre, et cette main serrée, et pendant ce temps, elle projetait de fuir. Oh, femme, femme, plaignez-vous donc si l'on vous trompe. Mais oui, toute perfidie qu'on emploie est un vol qu'on vous fait. Quel plaisir j'aurais à me venger. Je la retrouverai, cette femme perfide. Je reprendrai mon empire sur elle. Si l'amour m'a suffi pour en trouver des moyens, que ne fera-t-il pas aider de la vengeance? Je la verrai encore à mes genoux, tremblante et baignée de pleurs, me criant merci de sa trompeuse voix. Et moi, je serai sans pitié. Que fait-elle à présent? Que pense-t-elle? Peut-être elle s'applaudit de m'avoir trompée. Et fidèle au goût de son sexe, ce plaisir lui paraît le plus doux. Ce que n'a pas pu la vertu tant vanter, l'esprit de ruse l'a produit sans effort. Insensé. Je redoutais sa sagesse. C'était sa mauvaise foi que je devais craindre. Et être obligé de dévorer mon ressentiment, n'oser montrer qu'une tendre douleur quand j'ai le cœur rempli de rage, me voir réduit à supplier encore une femme rebelle qui s'est soustraite à mon empire. Devais-je donc être humilié à ce point? Et par qui? Par une femme timide, et qui jamais ne s'est exercée à combattre. À quoi me sert de m'être établie dans son cœur, de l'avoir embrasée de tous les feux de l'amour, d'avoir porté jusqu'au délire le trouble de ses sens? Si tranquille dans sa retraite, elle peut aujourd'hui s'enorgueillir de sa fuite, plus que moi de mes victoires. Et je le souffrirai. Mon ami, vous ne le croyez pas. Vous n'avez pas de moi cette humiliante idée. Mais quelle fatalité m'attache à cette femme! Sans autre ne désire-t-elle pas mes soins? Ne s'empresseront-elles pas d'y répondre? Quand même aucune ne vaudrait celle-ci, l'attrait de la variété, le charme des nouvelles conquêtes, l'éclat de leur nombre, n'offrent-ils pas des plaisirs assez doux? Pourquoi courir après celui qui nous fuit et négliger ce qui se présente? Ah, pourquoi? Je l'ignore, mais je l'éprouve fortement. Il n'est plus pour moi de bonheur, de repos, que par la possession de cette femme que je hais, et que j'aime avec une égale fureur. Je ne supporterai mon sort que du moment où je disposerai du sien. Alors, tranquille et satisfait, je la verrai, à son tour, livrée aux orages que j'éprouve en ce moment. J'en exciterai mille autres encore. L'espoir et la crainte, la méfiance et la sécurité, tous les maux inventés par la haine, tous les biens accordés par l'amour, je veux qu'ils remplissent son cœur, qu'ils s'y succèdent à ma volonté. Ce temps viendra. Mais que de travaux encore. Que j'en étais prêt hier et qu'aujourd'hui je m'en vois éloigné. Comment m'en rapprocher? Je n'ose tenter aucune démarche. Je sens que, pour prendre un parti, il faudrait être plus calme, et mon sang bout dans mes veines. Ce qui redouble mon tourment, c'est le sang-froid avec lequel chacun répond ici à mes questions sur cet événement, sur sa cause, sur tout ce qu'il offre d'extraordinaire. Personne ne sait rien. Personne ne désire de rien savoir, à peine en aurait-on parlé, si j'avais consenti qu'on parlât d'autre chose. Madame de Rosemonde, chez qui j'ai couru ce matin quand j'ai appris cette nouvelle, m'a répondu, avec le froid de son âge, que c'était la suite naturelle de l'indisposition que Madame de Tourvel avait eue hier. Qu'elle avait craint une maladie et qu'elle avait préféré d'être chez elle. Elle trouve cela tout simple. Elle en aurait fait autant, m'a-t-elle dit, comme s'il pouvait y avoir quelque chose de commun entre elles deux, entre elle, qui n'a plus qu'à mourir, et l'autre, qui fait le charme et le tourment de ma vie. Madame de Volanges, que d'abord j'avais soupçonné d'être complice, ne paraît affectée que de n'avoir pas été consultée sur cette démarche. Je suis bien aise, je l'avoue, qu'elle n'ait pas eu le plaisir de me nuire. Cela me prouve encore qu'elle n'a pas, autant que je le craignais, la confiance de cette femme. C'est toujours une ennemie de moins. Comme elle se féliciterait si elle savait que c'est moi qu'on a fui. Comme elle se sentirait gonflée d'orgueil si c'eût été par ses conseils. Comme son importance en aurait redoublé. Mon Dieu, que je la hais. Oh, je renouerai avec sa fille. Je veux la travailler à ma fantaisie. Aussi bien, je crois que je resterai ici quelque temps. Au moins, le peu de réflexion que j'ai pu faire me porte à ce parti. Ne croyez-vous pas, en effet, qu'après une démarche aussi marquée, mon ingrate doit redouter ma présence? Si donc l'idée lui est venue que je pourrais la suivre, elle n'aura pas manqué de me fermer sa porte. Et je ne veux pas plus l'accoutumer à ce moyen qu'en souffrir l'humiliation. J'aime mieux lui annoncer au contraire que je reste ici. Je lui ferai même des instances pour qu'elle y revienne. Et quand elle sera bien persuadée de mon absence, j'arriverai chez elle. Nous verrons comment elle supportera cette entrevue. Mais il faut la différer pour en augmenter l'effet. Et je ne sais encore si j'en aurai la patience. J'ai eu 20 fois dans la journée la bouche ouverte pour demander mes chevaux. Cependant, je prendrai sur moi. Je m'engage à recevoir votre réponse ici. Je vous demande seulement, ma belle amie, de ne pas me la faire attendre. Ce qui me contrarierait le plus serait de ne pas savoir ce qui se passe. Mais mon chasseur, qui est à Paris, a des droits à quelque accès auprès de la femme de chambre. Il pourra me servir. Je lui envoie une instruction et de l'argent. Je vous prie de trouver bon que je joigne l'un et l'autre à cette lettre, et aussi d'avoir soin de les lui envoyer par un de vos gens, avec ordre de les lui remettre à lui-même. Je prends cette précaution parce que le drôle a l'habitude de n'avoir jamais reçu les lettres que je lui écris quand elles lui prescrivent quelque chose qui le gêne, et que pour le moment, il ne me paraît pas aussi épris de sa conquête que je voudrais qu'il le fût. Adieu, ma belle amie. S'il vous vient quelque idée heureuse, quelque moyen de hâter ma marche, faites-m'en part. J'ai éprouvé plus d'une fois combien votre amitié pouvait être utile. Je l'éprouve encore en ce moment, car je me sens plus calme depuis que je vous écris. Au moins, je parle à quelqu'un qui m'entend, et non aux automates près de qui je végète depuis ce matin. En vérité, plus je vais et plus je suis tentée de croire qu'il n'y a que vous et moi dans le monde qui valions quelque chose. Lettre 101. Le vicomte de Valmont a Azolan, son chasseur, joint à la précédente. Il faut que vous soyez bien imbécile, vous qui êtes parti d'ici ce matin, de n'avoir pas su que madame de Tourvel en partait aussi. Ou, si vous l'avez su, de n'être pas venu m'en avertir. À quoi sert-il donc que vous dépensiez mon argent à vous enivrer avec les valets, que le temps que vous devriez employer à me servir, vous le passiez à faire l'agréable auprès des femmes de chambre, si je n'en suis pas mieux informée de ce qui se passe? Voilà pourtant de vos négligences. Mais je vous préviens que s'il vous en arrive une seule dans cette affaire-ci, ce sera la dernière que vous aurez à mon service. Il faut que vous m'instruisiez de tout ce qui se passe chez madame de Tourvel, de sa santé, si elle dort, si elle est triste ou gaie, si elle sort souvent et chez qui elle va, si elle reçoit du monde chez elle et qui y vient, à quoi elle passe son temps, si elle a de l'humeur avec ses femmes, particulièrement avec celles qu'elle avait amenées ici, ce qu'elle fait quand elle est seule, si quand elle lit de suite ou si elle interrompt sa lecture pour rêver, de même quand elle écrit. Songez aussi à vous rendre l'ami de celui qui porte ses lettres à la poste. Offrez-vous souvent à lui pour faire cette commission à sa place. Et quand il acceptera, ne faites partir que celles qui vous paraîtront indifférentes, et envoyez-moi les autres, surtout celles à madame de Volanges, si vous en rencontrez. Arrangez-vous pour être encore quelque temps l'amant heureux de votre Julie. Si elle en a un autre, comme vous l'avez cru, faites-la consentir à se partager. Et n'allez pas vous piquer d'une ridicule délicatesse. Vous serez dans le cas de bien d'autres qui valent mieux que vous. Si pourtant votre second se rendait trop opportun, si vous vous aperceviez, par exemple, qu'il occupa trop Julie pendant la journée et qu'elle en fut moins souvent auprès de sa maîtresse, écartez-le par quelque moyen ou cherchez-lui querelle. N'en craignez pas les suites, je vous soutiendrai. Surtout, ne quittez pas cette maison. C'est par l'assiduité qu'on voit tout et qu'on voit bien. Si même le hasard faisait renvoyer quelqu'un des gens, présentez-vous pour le remplacer, comme n'étant plus à moi. Dites dans ce cas que vous m'avez quitté pour chercher une maison plus tranquille et plus réglée. Tâchez enfin de vous faire accepter. Je ne vous en garderai pas moi à mon service pendant ce temps. Ce sera comme chez la duchesse de... Et par la suite, madame de Tourvel vous en récompensera de même. Si vous aviez assez d'adresse et de zèle, cette instruction devrait suffire. Mais pour suppléer à l'un et à l'autre, je vous envoie de l'argent. Le billet 6 juin vous autorise, comme vous verrez, à toucher 25 louis chez mon homme d'affaires, car je ne doute pas que vous ne soyez sans le sol. Vous emploierez de cette somme ce qui sera nécessaire pour décider Julie à établir une correspondance avec moi. Le reste servira à faire boire les gens. Ayez soin, autant que cela se pourra, que ce soit chez le Suisse de la maison, afin qu'il aime à vous y voir venir. Mais n'oubliez pas que ce ne sont pas vos plaisirs que je veux payer, mais vos services. Accoutumez Julie à observer tout et à tout rapporter, même ce qui lui paraît minutieux. Il vaut mieux qu'elle écrive 10 phrases inutiles que d'en omettre une intéressante. Et souvent, ce qui paraît indifférent ne l'est pas. Comme il faut que je puisse être instruit sur le champ, s'il arrivait quelque chose qui vous parut mériter attention, aussitôt cette lettre reçue, vous enverrez Philippe sur le cheval de commission, s'établir à, village à moitié chemin de Paris, au château de madame de Rosemonde. Il y restera jusqu'à nouvel ordre. Ce sera un relais en cas de besoin. Pour la correspondance courante, la poste suffira. Prenez garde de perdre cette lettre. Relisez-la tous les jours, tant pour vous assurer de ne rien oublier que pour être sûr de l'avoir encore. Faites enfin tout ce qu'il faut faire quand on est honoré de ma confiance. Vous savez que si je suis content de vous, vous le serez de moi. Lettre 102. La présidente de Tourvel à Madame de Rosemonde. Vous serez bien étonnée, madame, en apprenant que je pars de chez vous aussi précipitamment. Cette démarche va vous paraître bien extraordinaire, mais que votre surprise va redoubler encore quand vous en saurez les raisons. Peut-être trouverez-vous qu'en vous les confiant, je ne respecte pas assez la tranquillité nécessaire à votre âge, que je m'écarte même des sentiments de vénération qui vous sont dus à tant de titres. Ah, madame, pardon, mais mon cœur est oppressé. Il a besoin d'épancher sa douleur dans le sein d'une amie également douce et prudente. Quel autre que vous pouvait-il choisir? Regardez-moi comme votre enfant. Ayez pour moi les bontés maternelles. Je les implore. J'y ai peut-être quelques droits par mes sentiments pour vous. Où est le temps où, tout entière à ces sentiments louables, je ne connaissais point ceux qui, portant dans l'âme le trouble mortel que j'éprouve, ôtent la force de les combattre, en même temps qu'ils en imposent le devoir? Ah, ce fatal voyage m'a perdu. Que vous dirai-je enfin? J'aime. Oui, j'aime éperdument. Hélas, ce mot que j'écris pour la première fois, ce mot si souvent demandé sans être obtenu, je paierai de ma vie la douceur de pouvoir une fois seulement le faire entendre à celui qui l'inspire. Et pourtant, il faut le refuser sans cesse. Il va douter encore de mes sentiments. Il croira avoir à s'en plaindre. Je suis bien malheureuse. Que ne lui est-il aussi facile de lire dans mon cœur que d'y régner? Oui, je souffrirais moins s'il savait tout ce que je souffre. Mais vous-même, à qui je le dis, vous n'en aurez encore qu'une faible idée. Dans peu de moments, je vais le fuir et l'affliger. Tandis qu'il se croira encore près de moi, je serai déjà loin de lui. À l'heure où j'avais coutume de le voir chaque jour, je serai dans des lieux où il n'est jamais venu, où je ne dois pas permettre qu'il vienne. Déjà, tous mes préparatifs sont faits. Tout est là, sous mes yeux. Je ne puis les reposer sur rien qui ne m'annonce ce cruel départ. Tout est prêt, excepté moi. Et plus mon cœur s'y refuse, plus il me prouve la nécessité de m'y soumettre. Je m'y soumettrai sans doute. Il vaut mieux mourir que de vivre coupable. Déjà, je le sens, je ne le suis que trop. Je n'ai sauvé que ma sagesse. La vertu s'est évanouie. Faut-il vous l'avouer? Ce qui me reste encore, je le dois à sa générosité. Enivré du plaisir de le voir, de l'entendre, de la douceur de le sentir auprès de moi, du bonheur plus grand de pouvoir faire le sien, j'étais sans puissance et sans force. À peine m'en restait-il pour combattre, je n'en avais plus pour résister. Je frémissais de mon danger sans pouvoir le fuir. Eh bien, il a vu ma peine et il a eu pitié de moi. Comment ne le chérirais-je pas? Je lui dois bien plus que la vie. Ah, si en restant auprès de lui, je n'avais à trembler que pour elle, ne croyez pas que jamais je consentisse à m'éloigner. Que m'est-elle sans lui? Ne serais-je pas trop heureuse de la perdre? Condamnée à faire éternellement son malheur et le mien, à n'oser ni me plaindre, ni le consoler, à me défendre chaque jour contre lui, contre moi-même, à mettre mes soins à causer sa peine, quand je voudrais les consacrer tous à son bonheur. Vivre ainsi, n'est-ce pas mourir mille fois? Voilà pourtant quel va être mon sort. Je le supporterai, cependant. J'en aurai le courage. Ô vous que je choisis pour ma mère, recevez-en le serment. Recevez aussi celui que je fais de ne vous dérober aucune de mes actions. Recevez-le, je vous en conjure. Je vous le demande comme un secours dont j'ai besoin. Ainsi, engagé à vous dire tout, je m'accoutumerai à me croire toujours en votre présence. Votre vertu remplacera la mienne. Jamais, sans doute, je ne consentirai à rougir à vos yeux. Et retenu par ce frein puissant, tandis que je chérirai en vous l'indulgente amie, confidente de ma faiblesse, j'y honorerai encore l'ange tutélaire qui me sauvera de la honte. C'est bien d'en éprouver assez que d'avoir à faire cette demande, fatal effet d'une présomptueuse confiance. Pourquoi n'ai-je pas redouté plus tôt ce penchant que j'ai senti naître? Pourquoi me suis-je flatté de pouvoir, à mon gré, le maîtriser ou le vaincre? Insensé. Je connaissais bien peu l'amour. Ah, si je l'avais combattu avec plus de soin, peut-être eût-il pris moins d'empire. Peut-être alors ce départ n'eût pas été nécessaire. Ou même, en me soumettant à ce parti douloureux, j'aurais pu ne pas rompre entièrement une liaison qui lui suffit de rendre moins fréquente. Mais tout perdre à la fois, et pour jamais. Oh, mon ami. Mais quoi, même en vous écrivant, je m'égare encore dans des vœux criminels. Ah, partons, partons, et que du moins ces torts involontaires soient expiés par mes sacrifices. Adieu, ma respectable amie. Aimez-moi comme votre fille. Adoptez-moi pour telle. Et soyez sûre que malgré ma faiblesse, j'aimerais mieux mourir que de me rendre indigne de votre choix. Lettre 103. Madame de Rosemonde à la présidente de Tourvel. J'ai été, ma chère belle, plus affligée de votre départ que surprise de sa cause. Une longue expérience et l'intérêt que vous inspirez avaient suffi pour m'éclairer sur l'état de votre cœur. Et s'il faut tout dire, vous ne m'avez rien ou presque rien appris par votre lettre. Si je n'avais été instruite que par elle, j'ignorerais encore quel est celui que vous aimez. Car en me parlant de lui tout le temps, vous n'avez pas écrit son nom une seule fois. Je n'en avais pas besoin. Je sais bien qui c'est. Mais je le remarque parce que je me suis rappelé que c'est toujours là le style de l'amour. Je vois qu'il en est encore comme au temps passé. Je ne croyais guère être jamais dans le cas de revenir sur des souvenirs si éloignés de moi et si étrangers à mon âge. Pourtant, depuis hier, je m'en suis vraiment beaucoup occupée par le désir que j'avais d'y trouver quelque chose qui puisse vous être utile. Mais que puis-je faire? que vous admirez et vous plaindre. Je loue le parti sage que vous avez pris, mais il m'effraie, parce que j'en conclus que vous l'avez jugé nécessaire, et quand on en est là, il est bien difficile de se tenir toujours éloigné de celui dont notre cœur nous rapproche sans cesse. Cependant, ne vous découragez pas. Rien ne doit être impossible à votre belle âme. Et quand vous devriez un jour avoir le malheur de succomber, ce qu'à Dieu ne plaise, croyez-moi, ma chère belle, réservez-vous au moins la consolation d'avoir combattu de toute votre puissance. Et puis, ce que ne peut la sagesse humaine, la grâce divine l'opère quand il lui plaît. Peut-être êtes-vous à la veille de ses secours. Et votre vertu, éprouvée dans ces combats terribles, en sortira plus pure et plus brillante. La force que vous n'avez pas aujourd'hui, espérez que vous la recevrez demain. N'y comptez pas pour vous en reposer sur elle, mais pour vous encourager à user de toutes les vôtres. En laissant à la Providence le soin de vous secourir dans un danger contre lequel je ne peux rien, je me réserve de vous soutenir et de vous consoler autant qu'il sera en moi. Je ne soulagerai pas vos peines, mais je les partagerai. C'est à ce titre que je recevrai volontiers vos confidences. Je sens que votre cœur doit avoir besoin de s'épancher. Je vous ouvre le mien. L'âge ne l'a pas encore refroidi au point d'être insensible à l'amitié. Vous le trouverez toujours prêt à vous recevoir. Ce sera un faible soulagement à vos douleurs, mais au moins vous ne pleurerez pas seul. Et quand ce malheureux amour, prenant trop d'empire sur vous, vous forcera d'en parler, il vaut mieux que ce soit avec moi qu'avec lui. Voilà que je parle comme vous. Et je crois qu'à nous deux, nous ne parviendrons pas à le nommer. Au reste, nous nous entendons. Je ne sais si je fais bien de vous dire qu'il m'a paru vivement affecté de votre départ. Il serait peut-être plus sage de ne vous en pas parler. Mais je n'aime pas cette sagesse qui afflige ses amis. Je suis pourtant forcée de n'en pas parler plus longtemps. Ma vue débile et ma main tremblante ne me permettent pas de longues lettres quand il faut les écrire moi-même. Adieu donc, ma chère belle. Adieu, mon aimable enfant. Oui, je vous adopte volontiers pour ma fille. Et vous avez bien tout ce qu'il faut pour faire l'orgueil et le plaisir d'une mère.
So suddenly awake, no light from yonder window breaks, no crowing cock, just my old clock, please make it stop. I try to wrestle free, but like the dew, she clings to me.